Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Vous souhaitez poser une question à l'invité de RTL ?
Un seul numéro, 3210.
Et l'invité exceptionnel d'RTL aujourd'hui à 8h16 est notre Premier ministre Manuel Valls. Merci d'être resté avec nous. Manuel Valls, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs. À commencer par Catherine qui nous appelle de Vincennes dans le Val-de-Marne. Bonjour Catherine, le Premier ministre vous écoute.
Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur Calvi. Ma question est la suivante. Allez-vous sécuriser et protéger nos écoles ?
Cette question est tout à fait légitime. Avons-nous la possibilité, les moyens de sécuriser toutes les écoles ? Les parents, les enseignants se posent sans aucun doute cette question ce matin. Nous en avons parlé avec la ministre de l'Éducation, avec le ministre de l'Intérieur. Il faut en tout cas que la police et la gendarmerie soient particulièrement vigilante partout en France, pas seulement pour nos écoles, mais pour l'ensemble des établissements.
On se demande ce que l'on peut faire de plus, parce que pratiquement toutes les écoles de France ont devant elles aujourd'hui des barrières, la mobilisation est générale, et on se dit il y a un moment où ça va devoir s'arrêter. Je veux dire, est-ce qu'on peut encore aller un peu plus loin dans la protection de nos écoles ? Je pense que c'était le sous-entendu de la question de Catherine.
Bien sûr, il faut une mobilisation des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes, des polices municipales, des douaniers soutenus par nos forces militaires avec une occupation du terrain. Mais cette guerre contre Daesh, elle doit se mener d'abord en Syrie et en Irak. Il y a, vous le savez, aussi ce qui se passe en Libye, puisque Daesh, cette organisation terroriste, cette armée terroriste, est implantée et s'y implante là-bas. C'est pour cela que je dis que c'est une guerre qui va être longue et difficile. Pour ce qui concerne le territoire national, tout doit être fait pour protéger les Français. Je comprends leur peur, leur angoisse et leurs questions. Il n'y a pas de risque zéro, mais tout doit être fait. Et toutes les questions qui sont posées aujourd'hui par les Français devront être traitées.
Merci de nous avoir appelé, Catherine. Gilles, vous nous téléphonez, vous, de Villemoisson-sur-Orge, c'est dans le département de l'Essonne. Le Premier ministre vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre et bonjour Monsieur Calvi. Dans le cadre de ce que vous venez de dire sur la protection des gens, moi j'ai bien senti que la population qui avait porté secours, les premiers secours, était complètement démunie vis-à-vis des premiers secours apportés. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable maintenant que dans les écoles et dans les entreprises, on forme enfin les gens aux premiers secours ?
Il y a déjà beaucoup de formations aux premiers secours et d'ailleurs sur les trottoirs de Paris, comme au Bataclan, il y a eu des actes héroïques. Des Français qui ont aussi déchiré leur chemise, pardon de rentrer dans ces détails, pour faire des garrots, pour sauver des gens. Mais
beaucoup nous ont dit aussi leur incapacité d'agir et leur grande souffrance de ne pas savoir quoi faire.
Et puis avec quel choc, les images que vous avez rapportées, en tout cas les scènes que vous avez décrites, montrent que pour les gens qui étaient choqués, parfois blessés, c'était particulièrement difficile d'intervenir. Mais vous avez raison, monsieur, c'est une manière générale autour de la sécurité civile, des secours, de la mobilisation des Français. Nous devons sans doute aller encore plus loin dans ce qu'un peuple peut acquérir pour se mobiliser. Il y a des pays qui vivent avec cette menace terroriste permanente. Nous devons intégrer ces éléments pour que chacun puisse réagir en termes de vigilance, mais aussi de secours.
Ça se passe à l'école ?
Ça se passe à l'école, il y a beaucoup de choses qui se font à l'école, il faut sans doute aller encore plus.
Vous pensez prendre des mesures ? En tout cas, y réfléchir.
Je ne veux pas inventer là, nous sommes mobilisés face à cet événement, l'enquête est en cours. Parfois, vous et nous allons plus vite bien sûr, parce que nous commentons, nous agissons, que nos compatriotes qui sont encore sous le choc.
Bonjour Pascal, vous nous appelez vous de Royan, merci d'écouter RTL, le Premier ministre vous écoute.
Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur Calvi. On est en état de guerre, en état d'urgence. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas nos frontières, ne serait-ce que pour un moment donné, pour une période bien définie, mais au moins pour que tout le monde soit rassuré en France et faire en sorte qu'on puisse se préparer.
Et je précise, Monsieur le Premier ministre, que beaucoup de questions nous sont parvenues allant dans ce sens.
Le contrôle aux frontières, ce qui est permis d'ailleurs dans le cadre de Schengen, a été activé. Il avait d'ailleurs été activé dès vendredi matin pour la préparation du rendez-vous climat. Fermer les frontières, c'est empêcher les gens de passer. Ça ne concerne pas que les frontières terrestres, ça concerne aussi les frontières aériennes. Le contrôle, les contrôles à nos frontières ont été rétablis. Et c'est ce contrôle qui doit, bien sûr, être le plus efficace possible. Il y a ces contrôles, il y a les perquisitions administratives que nous sommes en train de mener, qui ont été menées cette nuit, sans plus de 150 perquisitions administratives ont été menées, ça va continuer. Donc, sur nos frontières, comme sur le territoire national, nous agissons.
Pascal, merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est Jean-Pierre maintenant qui vous interroge, Monsieur le Premier ministre. Il nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Jean-Pierre, nous vous écoutons.
Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour
Monsieur Calvi. Monsieur le Premier ministre, la France est en alerte maximum. La France est en guerre. Et je me pose la question de savoir s'il est bien judicieux de continuer la COP21 comme elle est prévue. Les policiers, enfin, le service d'ordre sont fatigués, à craindre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait judicieux de le reporter au moins d'un mois ?
Le sommet climat peut-il avoir lieu, Manuel Valls ?
Les forces de l'ordre sont peut-être fatiguées, mais elles sont d'abord mobilisées et avec un engagement considérable. Je l'ai encore vu hier avec les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Et cette mobilisation va se poursuivre. La COP21 est un rendez-vous essentiel pour l'avenir de la planète, pour l'humanité. À la fin du mois, le 29 novembre, tous les chefs d'État et de gouvernement de la planète seront ici à Paris et apporteront un message au monde entier de soutien et de solidarité à la France, pas uniquement sur le rendez-vous climat que nous devons réussir, mais par rapport aux événements que nous venons de subir. Aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement, au contraire, nous a demandé de reporter ce rendez-vous. Tous veulent être là. Je crois que ce serait, au contraire, abdiquer face au terrorisme. Alors, bien sûr, les conditions d'organisation, toute une série de manifestations qui étaient prévues n'auront pas lieu. Elle sera sans doute réduite à la négociation. Nous sommes en train de regarder cela, mais tout ce qui était extérieur à la COP, toute une série de concerts, de manifestations d'ailleurs plutôt festives, seront sans aucun doute annulées. Vous savez qu'il y a une grande manifestation qui était prévue le 29. Les organisateurs se réunissent aujourd'hui. Je ne veux pas aller trop vite, mais la question de l'organisation de cette manifestation, d'une manière ou d'une autre, sera posée.
Vous leur demandez d'annuler cette manifestation votre sentiment, Manuel Valls?
Mon sentiment, c'est que nous devons réfléchir, agir ensemble, mais...
J'ai l'impression que vous pensez oui, mais que vous ne voulez pas le
non,
dire.
Non, je suis prudent et sincère ici avec vous. Rien ne doit être fait qui puisse mettre en danger, en péril, compris par rapport à des mouvements de foule, des gens qui manifesteraient dans Paris. Et si nous devons organiser ce grand rendez-vous climat, en même temps, et c'était la remarque judicieuse de votre auditeur, les forces de sécurité doivent se concentrer sur l'essentiel. Mais ce rendez-vous sera un message majeur de la planète entière. Ce sera aussi l'occasion de marquer sa volonté de lutter contre le radicalisme, contre le fanatisme. Donc, au contraire, ce rendez-vous est important. Et la France sera la capitale du monde. Paris est la capitale du monde. Et c'est pour cela que ce rendez-vous doit être maintenu.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, de cette question. Bonjour, Eric. Vous nous appelez du département de la Moselle. Je crois que vous voulez discuter avec le Premier ministre de nos forces de l'ordre et des moyens que l'on doit leur donner. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Oui, ce week-end, je suis passé, par, comme tout le monde, par beaucoup, beaucoup d'émotions. Et je me disais, mais qu'est-ce que nous, petits Français, on peut faire. Et c'est ce que l'on peut faire, c'est vous aider, vous, à faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous donner les moyens. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de mettre en place une espèce de souscription, comme jadis ça se faisait quand les États partaient en guerre, pas une nouvelle taxe, pas un nouvel impôt, quelque chose de volontaire, où on pourrait faire des dons pour aider notre police, aider notre armée, aider les services de renseignement pour avoir ce financement.
Alors votre question est assez émouvante. Je vous interromps, Eric. En fait, vous nous proposez et vous suggérez au Premier ministre, Emmanuel Valls, peut-être que les Français puissent faire des dons pour soutenir l'activité de notre police. Est-ce que c'est concevable ?
J'aime ces Français qui s'impliquent, qui pensent à leur pays, aux forces de l'ordre. Je veux rappeler que plus
des dons, pas d'impôts en plus, hein, vous avez bien
non,
entendu.
J'ai bien compris. Plus de 100 000 gendarmes et policiers sont aujourd'hui mobilisés, auxquels vont se rajouter et se rajoutent déjà les militaires. Et nous avons prévu des déploiements supplémentaires de militaires sur l'ensemble du territoire. Et 5 000 étaient déployés hier sur Paris. Mais monsieur va plus loin. Mais examinons toutes les possibilités. Je pense que je ne vais pas en dire plus, mais le président de la République, le chef de l'État, cet après-midi, abordera aussi, parmi bien d'autres sujets, la question de la mobilisation. Nous l'évoquions tout à l'heure avec Olivier Masserolle. Et comment les Français peuvent se sentir impliqués. Nous parlions des secours il y a un instant, du soutien aux forces de l'ordre il y a quelques minutes.
La garde nationale avec les réservistes proposée par François Bayrou, c'est une bonne idée.
L'idée de la réserve, elle existe déjà, nous l'avions évoquée, elle se met en place progressivement. Laissons au chef de l'État le soin de formuler ses propres analyses et ses propositions.
Mais peut-être juste une question, Manuel Valls. On comprend bien, et vous nous le dites régulièrement, nous vivons avec des moyens finis, compliqués. La France a des difficultés, j'allais dire, pour boucler ses fins de mois. Est-ce qu'il va falloir à un moment peut-être renoncer à un certain nombre de mesures, je ne sais pas, à caractère social, pour renforcer la lutte contre le terrorisme ? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, je ne sais pas, les indemnités des chômeurs soient moins longues pour soutenir la lutte contre le terrorisme ?
Pourquoi opposer les uns aux autres ? Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, les forces de sécurité sont prioritaires. Depuis 2012, nous augmentons, nous allons continuer à augmenter les moyens des policiers, des gendarmes. Il faudra sans doute aller plus loin encore, je l'avais dit à ce micro, face à la guerre, face au terrorisme, face au trafic. Il faut donner tous les moyens aux policiers, aux gendarmes, à la justice pour faire face à ce danger, à cette menace permanente. Et ça doit être, vous avez raison de ce point de vue-là, une priorité. Mais la priorité, c'est la sécurité. La priorité, c'est l'école. La priorité, c'est lutter contre les fractures béantes de la société française. Donc, il n'y a pas qu'une seule priorité, même si la préoccupation sécuritaire est la première. Et nous l'incarnons, cette priorité sécuritaire. Donc, tous les moyens doivent être mis pour la sécurité de notre pays. Mais encore une fois, François Hollande aura l'occasion d'évoquer ce sujet.
On ne peut pas tout faire. On va donner la parole maintenant à Kevin qui nous appelle, lui, de Montpellier, dans le département de l'Hérault. Bonjour Kevin, merci d'appeler RTL. Le Premier ministre vous écoute.
Bonjour Monsieur Kevin, bonjour Monsieur Valls. J'ai une question brève parce que j'en ai des dizaines. On parle de deuil national aujourd'hui, mais je ne vois pas de pays en deuil, moi. Je vois des gens qui vont travailler. Il y a une vie tout à fait normale. Excusez-moi. Et on a quand même vécu un drame horrible. Et je crois que dans le monde entier, on est touché. Et voilà. Qu'est-ce que signifie le deuil national, s'il vous plaît ?
Voilà. Je crois que la remarque de Kevin, c'est de dire il y a des gens qui boulonnent aujourd'hui, les magasins sont ouverts. Est-ce qu'on pouvait en faire plus pour se mettre en quelque sorte, entre parenthèses, pour vivre notre deuil national ?
3 jours de deuil, les drapeaux en berne, ce moment de recueillement partout à midi, en France, en Europe et dans le monde. Et des Français qui, je crois, ont envie de se retrouver au boulot, bien sûr, entre eux, pour parler, pour évoquer, pour délivrer la parole. Donc, cette parole, elle est nécessaire. Si chacun reste chez soi, n'exprime pas ce qu'il ressent, n'évoque pas ce qui s'est passé, alors devenons une société qui se ferme sur elle-même, morte. Non, au contraire, il y a la vie. Nous allons vivre avec cette menace terroriste, mais la meilleure réponse, c'est la vie, la démocratie, la vie entre les Français. Et donc, au contraire, je crois que c'est de ces discussions, on en a beaucoup parlé en famille ce week-end. Et bien là, les Français vont en parler entre eux. Et c'est important. Et nous devons être à l'écoute. Parce que, bien évidemment, moi j'entends, je parle avec mes proches, avec mes enfants, avec les élus que je connais. Nous voyons bien que la société française est profondément touchée, commotionnée par ce qui s'est passé. Et nous devons être à l'écoute de ce que les Français pensent, de leur colère, de leur questionnement, de leur incompréhension, de leur attente vis-à-vis de l'exécutif, puisque c'est à nous de prendre un certain nombre de décisions tout en étant à la hauteur des enjeux. Donc il faut que les Français parlent et se parlent et nous parlent. C'est ça une grande démocratie. C'est ça la France.
En dépit des opérations de police qui continuent, puisque vous nous avez annoncé il y a quelques instants 150 perquisitions qui ont lieu ou doivent avoir lieu aujourd'hui, la vie doit continuer, vient de nous dire le Premier ministre. Manuel Valls, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour répondre à nouveau aux questions de nos auditeurs au 3210. Merci à tous d'écouter RTL.
RTL Matin.
Vous souhaitez poser une question à l'invité de RTL ?
Un seul numéro, 3210.
8h32, merci de continuer à appeler le Premier ministre pour répondre à vos questions. Juste une chose avant de donner la parole à Marie-Manuel Valls. On a tous été surpris par l'expression utilisée hier par le ministre de l'Intérieur qui évoque la dissolution possible des mosquées de notre pays. Alors je vous pose la question plus simplement, c'est doit-on et va-t-on fermer des mosquées ? Je remarque qu'aujourd'hui, les mosquées radicales, bien entendu, et je remarque que certains responsables musulmans y sont favorables, ils s'expriment dans ce sens ce matin dans la presse.
Il faut, je l'ai rappelé depuis des mois, je l'ai encore rappelé samedi soir, expulser tous les étrangers qui tiennent des propos insupportables, radicalisés, contre nos valeurs, contre la République. Il faut fermer les mosquées, les associations qui, aujourd'hui, s'en prennent aux valeurs de la République. C'est cette action que nous menons. Il y a déjà eu beaucoup d'expulsions de prêcheurs, de haine. Il y a eu des déchéances de la nationalité aussi, 6 depuis 2012. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Nous allons donc poursuivre. Aucun élément, dans le cadre de notre état de droit, aucun élément, aucune action ne sera mise de côté. Nous agirons, encore une fois, sur tous les fronts avec la plus grande des déterminations.
Et par exemple, la fermeture de lieux de culte quand ils sont désignés comme étant dangereux.
Pas uniquement fermer des lieux de culte, il faut poursuivre ceux qui prônent la haine, bien évidemment.
Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez du 17e arrondissement de Paris, vous êtes étudiante, le Premier ministre vous écoute.
Alors bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que répliquer aussi violemment en Syrie ne va pas rajouter dans l'horreur et engendrer une forme d'escalade de la violence ? On sait ce que les précédentes interventions militaires dans ces zones ont donné. C'était contre-productif. Ne retient-on donc rien de l'histoire ? Et ne faut-il pas faire comme Monsieur Mélenchon l'a rappelé il y a deux jours, s'attaquer aux moyens de financement de Daesh et faire le clair dans le double jeu de certains de nos alliés ?
Mais ce n'est pas incompatible, ce n'est pas contradictoire. Il faut s'attaquer, bien sûr, aux réseaux financiers qui sont importants. Vous le rappeliez d'ailleurs ce matin sur votre antenne. Il faut agir sur le plan diplomatique et mobiliser la communauté internationale et afin que chacun assume pleinement ses responsabilités comme le fait la France. Mais la France, elle n'est pas attaquée uniquement parce que nous intervenons à l'extérieur, parce que nous frappons Daesh. Nous sommes attaqués parce que nous sommes la France, parce que nous portons des valeurs universelles, parce qu'il y a une jeunesse qui vit librement, parce que nous avons une certaine conception de l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, parce que nous défendons la laïcité. C'est ça la France. Baisser la garde, ne pas répliquer, ne pas combattre, ne pas mener cette guerre, ce serait au contraire reculer et donner cette victoire à cette organisation terroriste qui vise pas uniquement notre pays parce que nous sommes engagés, qui s'attaque par exemple à la Belgique. Si elle s'attaque à la Belgique, c'est pas parce que la Belgique est forcément engagée dans les opérations extérieures, mais parce que c'est un pays européen, parce que c'est Bruxelles, la capitale européenne. Donc c'est un combat de valeurs, c'est un combat de civilisation.
Particulièrement visé parce que nous voulons un islam compatible avec la laïcité. Ce qui est l'horreur absolue pour ces fanatiques qui viennent nous détruire.
Je vous demande une réponse rapide puisque nous prendrons ensuite la dernière question de l'auditeur.
Oui, nous sommes visés parce que nous sommes le pays des lumières, des droits de l'homme, de l'égalité, de la possibilité de croire ou de ne pas croire. Il est là le message universel de la France. On peut être chrétien, juif, musulman dans ce pays, mais en respectant et en se rassemblant autour de nos valeurs, qui sont des valeurs communes, croire et ne pas croire. Et c'est ça qu'on veut détruire. C'est pour ça qu'il faut être fort entre nous, unis, et en même temps, il faut combattre avec nos armées, avec nos soldats, il faut qu'on ait nos services de renseignement, notre police et notre gendarmerie, mais tous les Français, il faut combattre le terrorisme, parce que nous sommes un peuple fort et solidaire et qui est debout. C'est parfois une certaine idée au fond du pacifisme qui a conduit au désastre au XXe siècle. Au contraire, il faut être engagé, engagé jusqu'au bout, et nous le sommes.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci d'écouter RTL. Vous nous appelez, vous êtes chauffeur routier. Vous venez de passer la frontière belge, c'est ça ?
Oui, voilà. J'habite à côté de Molenbeek. Je suis passé ce matin, donc j'ai démarré à 5h, juste à côté de Molenbeek. Je suis passé la frontière à 6h20, 6h30. Il n'y avait strictement aucun contrôle. Il y avait bien une présence policière, oui, on était répartis sur une seule bande, mais il n'y a pas de contrôle.
Alors comment est-ce possible ? Je signale qu'on a eu de nombreux témoignages. Moi, j'ai tout simplement une amie qui m'a appelé hier, revenant d'Italie, en disant « aucun contrôle à Roissy à l'arrivée vers 22h ».
Il y a, laissons, Monsieur Calvi, laissons les services de police, les douaniers faire le travail avec le professionnalisme. J'entends beaucoup de choses. Ce qui compte pour moi, c'est l'efficacité. Si vous fermez les frontières, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, ce sont ces contrôles permanents qui existent et qui permettent, avec le professionnalisme, l'œil de ces policiers...
Mais ils évaluent ou ils subissent une situation où parfois on le fait, parfois on ne le fait pas. Vous comprenez, c'est ça finalement.
Ils évaluent,
on comprend très bien qu'on ne peut pas être partout en même moment.
Ils évaluent bien sûr cette situation, bien évidemment.
Vous en êtes sûr ?
Moi, j'en suis convaincu de leur professionnalisme, oui, bien sûr. Mais vous dire qu'il n'y a aucun risque, je ne vous le dirai pas non plus.
Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu répondre aussi ce matin aux auditeurs d'RTL pendant cette longue plage horaire. Bien entendu, cette spéciale se poursuit, je vous le rappelle aujourd'hui, jusqu'à 10h du matin. Nous aurons un débat à partir de 9h consacré à la question de la restriction de nos libertés individuelles pour lutter contre le terrorisme. Là aussi, vous pouvez continuer de nous appeler et de réagir à l'actualité. Et dans quelques instants, on retrouve Nicolas Demenac pour On n'est pas forcément d'accord en ce lundi matin.
En un clic sur le lien RTL en direct, faites plus qu'écouter, regardez RTL.
Rendez-vous sur rtl.fr.